bah, faut avoir envie, faut avoir faim, quoi. Faut avoir faim et faut savoir ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est gagner des sous, être capable de payer l'emprunt de ma maison, pouvoir acheter ce dont j'ai envie et pas uniquement ce dont j'ai besoin. Ça paraît très matérialiste de dire ça comme ça, mais j'ai envie de mener la vie qui me plaît, quoi, tout simplement. Et pour ça, bah, ça a un coût, et le coût, c'est le travail. Tant que j'aurai faim et que j'aurai envie de me lever le matin et que je serai content de faire ce métier et tout ça, bah, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Et je pense que les clients, ils le remarquent aussi d'une certaine manière, si tu n'es pas dilettante, si tu si tu as cette espèce de lumière dans les yeux.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat dans le but de vous aider à progresser et à vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Pierre Ollier, photographe du collectif DR basé en Vendée. Avec lui, nous parlerons de comment se lancer professionnellement dans la photo et comment concrètement gagner de l'argent et vendre ses prestations, notamment à des entreprises. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant et en laissant un commentaire, une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Pierre et vous souhaite bonne écoute. Salut Pierre, est-ce que tu peux te présenter ?
Eh bien oui, je m'appelle Pierre Ollier, j'ai 38 ans, je suis photographe, j'habite en ce moment en Vendée, j'espère pour longtemps. Et voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Comment t'en es venu à être photographe professionnel ?
Alors, faut remonter un petit peu loin. Moi, je faisais de la photographie en amateur quand j'avais une vingtaine d'années. Et à cette époque-là, je bossais en presse écrite dans la presse musicale, notamment pour Rolling Stone, par exemple. Et il m'arrivait de temps en temps de partir en reportage en binôme avec un photographe. Donc moi, je faisais le texte, lui faisait les photos. Et j'étais assez fasciné par l'immédiateté du métier de photographe, en fait. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Alors comme je faisais un peu de photos en amateur, bah, ça m'intriguait encore plus. Et du coup, un beau jour, par des concours de circonstances, je me suis retrouvé sans plus de travail en presse écrite. Du coup, je suis parti faire une école de photo. J'ai repris des études, donc, et j'ai choisi de faire ma formation... j'ai choisi une école qui me permettait de faire ma formation en alternance, donc de travailler en même temps. Et du coup, bah, j'étais une semaine à l'école et une semaine dans les studios photo d'une grande entreprise d'e-commerce. Où j'ai appris le métier de photographe de studio au contact des photographes directement, puisque j'apportais la lumière, etc., dans les studios. Et du coup, pendant cette alternance, on avait accès à tout le matériel qu'on voulait, donc ça permettait d'essayer beaucoup de choses, de se tromper beaucoup, et du coup d'apprendre aussi énormément. Et au cours de ces deux années-là, j'ai appris beaucoup plus de choses qu'à l'école, je pense. Et à la fin de mon cursus à l'école et du coup à la fin de mon alternance, la boîte pour laquelle j'étais en alternance donc ouvrait des postes de photographe salarié. Donc j'ai postulé, j'ai été pris et je suis resté presque 10 ans en tout dans cette boîte. Donc voilà, où j'ai été photographe de studio du lundi au vendredi et là-bas je shootais aussi bien. Des mannequins en prêt-à-porter ou en lingerie, ou des casseroles, des bouteilles de vin, des bijoux. Voilà. Donc ça demandait une très très grande polyvalence. Et voilà. Puis ça s'est terminé, un beau jour. Et donc je suis parti de Paris, parce que là c'était à Paris. Je suis venu m'installer en Vendée. Et là j'ai monté mon entreprise ici. Et je fais un peu de tout, encore une fois. Voilà, toujours avec cette espèce de maître mot de polyvalence. Mmh. Voilà.
Ouais, on n'est pas très loin de Nantes ici, et tu t'es installé, tu C'est qui tes clients aujourd'hui? À peu près, la typologie de tes clients, c'est quoi?
Alors, je travaille pour le département, donc c'est du marché public. En l'occurrence, c'est Vendée Tourisme. Donc là, c'est de la photographie pour la promotion du tourisme en Vendée. Ça représente une bonne partie de mon chiffre d'affaires. Je travaille beaucoup en corporate aussi, donc directement pour les entreprises. Et puis, je travaille aussi avec un éditeur aussi, beaucoup, qui lui fait un magazine dans chacune des principales villes de Vendée. Et pour ces magazines-là, donc là, je fais texte et photo. Et c'est à 60%, je dirais, du publi-reportage. Donc au final, c'est du corporate, puisque les entreprises payent pour avoir un article dans ces magazines-là. Et puis à 40%, où c'est du reportage des sujets, des portfolios. Voilà. Ça, c'est mes clients principaux. Je travaille quasiment jamais pour des particuliers. Je ne fais pas de mariage, je ne fais pas de photos de grossesse ou ce genre de choses-là. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis, au final, j'aurais pas le temps. Même si je voulais, j'aurais pas le temps. Voilà.
Ouais, ça c'est un truc que les gens n'imaginent pas trop, mais quand tu te lances au début, tu as envie de faire un peu tout. Tu te dis, il faut sauter sur la moindre case, un mariage, une photo de grossesse, de portrait ou quoi. Mais en fait, une fois que tu es spécialisé, tu n'as vraiment plus trop le temps de tout faire en fait.
Non, absolument, absolument. Et puis, j'ai oublié de dire, je travaille aussi avec des institutions comme la SNSM par exemple, les Sauveteurs en mer, ou le Musée des Sables d'Olonne aussi, où je fais des reproductions d'œuvres d'art pour eux, pour leurs archives et pour leur communication, etc. Et tu vois, tu disais, quand on est spécialisé, etc., moi, j'estime pas être spécialisé en quoi que ce soit, en fait. Comme ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est la polyvalence pour moi qui prévaut.
Bah, je voulais plus dire en termes de cible de clientèle, tu vois.
Ah
Toi, tu
oui,
as
dans
plus
ce sens,
ciblé les
ouais.
corporates, non, pas ciblé les particuliers, du coup.
Ouais, voilà, là on est d'accord, ouais, absolument.
Parce que c'est vrai que le métier de photographe, il est ultra large, quoi, ultra divers. Et même quand tu rencontres d'autres photographes, tu te rends compte que parfois, on a l'impression de ne pas faire le même métier, quoi.
Ouais.
Même si on utilise le même matos, les mêmes techniques, les mêmes logiciels. Mais en fait, on ne fait pas du tout les mêmes choses.
Mais il y a autant de photographies qu'il y a de photographes, quoi.
C'est vrai.
Il y a autant de métiers de photographes qu'il y a de photographes, quoi.
C'est ça.
Et moi, quand je suis venu m'installer ici en Vendée, j'imaginais pas vraiment, enfin, j'avais pas d'idée préconçue sur quel allait être mon métier de photographe ici, tout simplement parce que je connaissais pas le marché. Et du coup, je me suis adapté au marché, à la demande des clients d'ici, sachant que, a priori, j'avais pas tellement envie de travailler pour des particuliers, mais plus pour des entreprises et du reportage et ce genre de choses-là, quoi. Mais ouais, voilà.
Ça a pris du temps pour toi de t'implanter comme ça dans un territoire que tu connais pas, des gens que tu connais pas.
Ouais, ça a pris du temps parce que, en fait, quand j'ai eu mon numéro de SIRET, une semaine après, c'était le premier confinement.
Merde. Mauvais timing.
Donc j'ai eu un très bon sens du timing, absolument. Donc du coup, bah, pendant un an, j'ai pas travaillé, quoi. Ça a été. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'ici, c'est beaucoup le bouche à oreille qui fait fonctionner le business. Voilà, un premier client t'en amène un deuxième. Quand je suis arrivé ici, comme j'avais du temps pendant le confinement, je pense que j'ai démarché toute la Vendée, quoi. Mais je ne pouvais pas me déplacer. Donc, tu démarches par email, tu envoies des portfolios, tu essayes d'appeler, mais on ne te répond pas. Et en fait, tant que les gens ne t'ont pas rencontré, tant qu'ils ne t'ont pas vu travailler, ou tant que tu n'as pas été recommandé par quelqu'un d'autre, en fait, tu ne travailles pas. Donc ça a été. Ouais, c'était une première année très compliquée. La deuxième année, les choses ont commencé à se mettre en place petit à petit. Et puis là, bah maintenant, ça fait 4 ans et c'est voilà, le navire est bien, bien à flot là. Ça marche bien. Ouais.
Tu peux partager avec nous peut-être quelques chiffres ou une idée de grandeur pour une fourchette pour nous dire à peu près quelle grille à peu près tu te places en termes de chiffre d'affaires?
Alors, je vais parler mensuellement.
Ouais.
Il peut y avoir des mois à 6 000, 7 000 euros et puis des mois à 200 balles.
Ouais.
Donc,
très variable.
Mais c'est très variable. Ça dépend, en fait, quand je travaille pour le, par exemple, quand je travaille pour le département, c'est des grosses commandes qui prennent beaucoup de temps, qui du coup font un gros chiffre d'affaires derrière. Mais pendant qu'on fait ça, y a d'autres clients à qui on est obligé de dire non, plus tard, etc. Donc ça décale, ça, voilà. Et puis c'est sur l'année qu'on, voilà, ça se lisse sur l'année, quoi. Là, cette année, enfin, d'année, c'est que ma quatrième année, là, ouais. Depuis que je suis vraiment 100% indépendant, quoi. Mais chaque année montre une progression dans le bon sens. Je double pas. Entre la première et la deuxième année, je fais beaucoup plus que doubler. Ensuite, ça a augmenté un petit peu plus. La troisième année était bien. Là, je vais pas doubler ce que j'ai fait sur ma troisième année. Mais il y aura quand même une belle progression, ouais.
Ouais. C'est de l'ordre de quoi, à peu près, si tu veux partager ça avec nous? Sinon, pas de souci, hein, je comprends.
Je saurais même pas le dire. Je sais pas, on doit être à 30, peut-être 35 000 euros.
Ouais. Ouais, dans cet ordre-là, quoi.
Ouais, entre 35 et 40, je dirais.
Ok. C'est bien, hein, c'est un bon chiffre.
Ouais, je pense. Mmh.
Bah, surtout après 4 ans d'exercice, et il y a des gens qui mettent beaucoup plus d'années avant d'arriver à ce chiffre-là, donc c'est bien.
Ouais, mais c'est. Après, moi, j'ai pas commencé la photographie il y a 4 ans. Donc.
Mais alors, justement, tu étais dans un boulot salarié, tu es passé par une école. Comment tu t'es formé à être entrepreneur, à être capable de démarcher, de vendre, faire un peu de marketing, gérer ta gestion d'entreprise? C'est venu comme ça, en autodidacte?
Ah bah ouais. Oui, j'ai pas... quand j'ai décidé de venir ici m'installer et de me mettre à mon compte, j'avais pas du tout réfléchi à... va falloir apprendre à se vendre, ce que j'avais pas à faire puisque j'étais salarié, et on me disait, tel jour tu shootes de la lingerie, tel jour tu shootes des casseroles, tel jour... Voilà. Et du coup... En fait, j'apprends mon métier tous les jours, là, si tu veux. La manière de faire fonctionner une entreprise, même si c'est une entreprise individuelle, voilà, c'est des choses auxquelles je n'avais pas du tout réfléchi et qui viennent me percuter de temps en temps, comme ça. Quand je fais un gros mois, je sais que le mois suivant, à la fin du mois, il y a l'URSSAF qui sera prélevée, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper. Bah, c'est des choses que je ne savais pas avant ça, avant d'être dans cette situation-là, quoi. Donc, tous les jours, j'apprends. Et puis, j'écoute ton podcast aussi, donc j'ai des bons conseils dedans.
c'est gentil. Et sur, justement, sur cette partie gestion d'entreprise, tu l'as dit, une entreprise individuelle, ça reste une entreprise. C'est-à-dire que l'argent, quand tu gagnes de l'argent sur une prestation, ce n'est pas ton argent à toi, c'est l'argent de ton entreprise. Quand tu dépenses de l'argent, tu dépenses l'argent de cette entreprise.
Ouais.
Il ne faut pas tomber dans la bulle bien sociale parce que sinon c'est prison, etc. Comment tu le vois? Est-ce que ça a été compliqué pour toi, cette transition de salarié à entrepreneur, avec cette question de un peu schizophrène d'avoir une boîte à gérer? Ça, c'était assez naturel.
Ouais, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Et en fait, je suis vraiment très, très, très heureux d'être à mon compte. Et je crois que pour rien au monde, j'aimerais retourner dans le salariat. Parce que, alors, il y a des mois où c'est du 7 jours sur 7, même le dimanche. Et faut se lever très tôt et se coucher tard et pas prendre de pause parce qu'il y a beaucoup de travail et parce que le bouche à oreille fonctionne. Et si le bouche à oreille fonctionne dans un sens, il peut aussi fonctionner dans l'autre sens. Donc, si on veut garder des clients, faut savoir faire le dos rond et travailler fort et travailler dur quand il y a besoin. Mais d'un autre côté, quand il y a des moments un petit peu plus calmes, c'est chouette de pouvoir se dire, on est mercredi après-midi et j'ai le temps d'aller à la pêche, quoi. Voilà.
Ouais, t'as une vraie liberté que t'aurais jamais dans un boulot salarié, quoi.
Absolument, absolument. Et ça me plaît vachement de me dire que l'argent que je gagne, je le fabrique moi-même, quoi. Et que j'enrichis pas nécessairement une autre personne de par ma production personnelle, quoi.
Ouais. Voilà. C'est vrai que j'ai l'impression que tu reconnais bien les entrepreneurs qui vont aller loin, ou en tout cas qui vont continuer longtemps, parce que c'est ceux qui te diront « jamais je redeviendrai salarié
». Ouais.
T'as goûté à ça, alors que, après c'est normal, il y a des gens aussi qui se lancent, bah, beaucoup avec le Covid, beaucoup de gens sont lancés dans l'entrepreneuriat, dans l'auto-entreprise, et beaucoup ont arrêté au bout d'un an, voire même moins parfois, parce qu'il fallait payer la CFE, parce qu'ils ne réussissaient pas à trouver des clients, et c'est là que tu te dis aussi, le salariat c'est bien pour une partie de la population, c'est normal. Si on était tous entrepreneurs, ce serait bizarre, je pense.
Oui, je pense.
Et, ok. C'est quoi les défis, les challenges que tu as fait face quand tu t'es lancé, trucs que tu aimerais partager, peut-être qui ont été des... Tu en as tiré des conseils, des leçons que tu aimerais partager à des jeunes qui nous écoutent, des jeunes et des moins jeunes, en tout cas des jeunes entrepreneurs.
Ouais, faut avoir envie, faut avoir faim, quoi. Faut avoir faim et... Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est gagner des sous, être capable de payer l'emprunt de ma maison, pouvoir acheter ce dont j'ai envie et pas uniquement ce dont j'ai besoin. Ça paraît très matérialiste de dire ça comme ça, mais j'ai envie de mener la vie qui me plaît, quoi, tout simplement. Et pour ça, bah, ça a un coût, et le coût, c'est le travail. Tant que j'aurai faim et que j'aurai envie de me lever le matin et que je serai content de faire ce métier et tout ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Et je pense que les clients, ils le remarquent aussi d'une certaine manière, si t'es pas dilettante, si t'as cette espèce de lumière dans les yeux, ça... Je crois que ça, ouais, ça, c'est un peu une méthode couée peut-être, mais ça fonctionne, quoi.
C'est marrant, ça, quand je t'écoute, ça me fait penser à un podcast que j'écoutais en venant chez toi, là, sur la route, et ça parlait du fait un autre entrepreneur parlait du fait que tant que t'as pas une certaine douleur aussi dans ta vie, tu arrives pas à passer outre, et il racontait une anecdote, enfin une blague plutôt, qui est une bonne idée. C'est l'histoire d'un mec qui a un chien. Il est avec son pote et puis il voit le chien, et le chien il est bizarre, tu sais, il bouge bizarre, il a le dos qui remue et tout. Et en fait, il se rend compte que le chien est assis sur un clou. Et donc le mec il dit à son pote, mais il est complètement con ton chien, pourquoi il reste assis sur un clou? Et son pote il lui répond, bah parce que ça doit pas lui faire assez mal. Du coup il bouge pas. C'est vrai. Et du coup il tire la leçon de ce truc en disant, bah il y a plein de gens dans leur vie, ils ont une douleur, tu vois, ils se sentent pas bien dans leur boulot, ils ont envie de démissionner, ils ont un patron qui est chiant, un truc comme ça. Mais ils vont pas aller monter l'entreprise parce que ça leur fait pas assez mal, tu vois. Je trouve ça bien comme illustration. Mais toi, tu absolument. Parles du côté positif, mais il y a aussi le côté négatif.
Mais moi, je l'ai ressenti, ce côté négatif-là aussi. Ouais. Quand
t'étais sur un clou, toi aussi.
Ouais. Mais quand j'ai débuté ma rapide carrière de journaliste en presse écrite musicale à Paris, et que les magazines pour lesquels je travaillais ont arrêté d'être publiés, et je me suis retrouvé sans boulot, sans revenu, en train de cramer mon épargne, pour payer mon loyer. Il a bien fallu que... ça a été une période très compliquée pour moi, psychologiquement parlant. Et il a fallu se réinventer à ce moment-là, parce que quand tu vas démarcher à droite, à gauche, et qu'on te dit, toi tu viens de la presse rock, c'est une niche, tu ne sauras pas faire autre chose. Ça a été une bonne claque dans ma gueule à ce moment-là. Et ça m'a donné l'énergie qu'il fallait pour être surmotivé à retourner à l'école déjà, vouloir être le meilleur à l'école, vouloir être le meilleur dans mon alternance, parce que derrière il y avait possiblement un poste de photographe au bout, quoi. Et du coup, comme j'étais mort de faim à cause de ça, j'ai perdu ce côté mort de faim dans mes années de salariat, parce que là on me donnait des missions, j'avais tel shooting tel jour, tel shooting le lendemain, et voilà. Mais au moment où j'ai monté mon business ici en Vendée, j'ai retrouvé cette espèce d'étincelle-là qui fait que je suis très content de me lever le matin et si j'ai pas de commande ou quoi que ce soit, ça fait chier quoi.
Ouais, je vois. Mais c'est un peu le côté, tu brûles tes navires, quoi. Tu te mets tes dos au mur et quand tu as moins de sécurité, quelque part, tu vas plus te bouger,
Ouais,
aller chercher les choses.
absolument.
Ça, d'ailleurs, c'est un peu. Quand tu passes un certain niveau, dans l'entrepreneuriat, tu commences à te reposer un petit peu sur tes acquis, tu vois tes revenus qui arrivent, c'est un peu prévisible. Du coup, tu baisses un peu la garde et c'est vrai que c'est à ce moment-là, souvent, que ça se casse la figure. Surtout quand il y a un événement comme le Covid qui arrive ou un truc comme ça. Et que t'as pas bien géré ta trésorerie, il y a plein de boîtes qui sont mortes comme ça à cause de ça. C'est complexe, ouais.
Mais c'est là qu'intervient le collectif DR dans ma vie, tu vois. C'est
Joli placement produit,
ouais.
je te ferai le chèque après.
Non, mais tu vois, j'ai postulé pour rentrer dans le collectif DR un peu pour ces raisons-là, pour ce que tu es en train de dire, parce que pour les moments où c'est plus calme dans l'année, où j'ai pas de shooting, où je suis un peu désœuvré par exemple, quoi que ce soit, je me suis dit que ça serait bien de produire mes propres sujets, etc. Mais produire ses propres sujets, c'est bien beau, mais faut réussir à les diffuser, faut réussir à les vendre. Et quand tu es tout seul dans ton petit coin de Vendée et que tu es personne, je pense que ça peut être un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, avec DR, possiblement, j'aurai une structure qui va me permettre de diffuser mon travail. Et du coup, comme j'aurai cette possibilité-là, ça me motivera encore plus à produire des choses quand j'en ai le temps. Plutôt que. Alors, j'aime bien jouer à Zelda et regarder un bon film sur Netflix, quoi. Mais ça fait pas tout quoi.
C'est pas très productif quoi.
Ouais, non.
Cool. Ouais, c'est vrai, tu fais partie des nouveaux arrivants là, il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Hein. C'est quoi tes impressions jusqu'à maintenant sur le contenu qu'on propose, sur tout ça, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît moins,
Alors,
qu'est-ce qu'on peut améliorer?
moi, il y a un truc qui me fait vraiment du bien, c'est que j'ai l'impression d'avoir retrouvé des collègues de travail. Avec les visios du lundi, avec le Slack où les gens échangent, etc. C'est vrai que le métier de photographe indépendant, c'est un métier qui est très solitaire, même si on est en clientèle ou quoi que ce soit, mais au final, tu rentres chez toi, tu es tout seul à éditer ton reportage sur ton ordinateur. Et du coup, d'être au sein d'un collectif, le mot, il est important, le mot collectif, quoi. C'est vraiment très plaisant d'avoir vraiment j'ai l'impression de faire partie d'une équipe quoi, d'avoir des collègues et comme c'était le cas dans mon boulot précédent où on était une équipe de photographes, on pouvait un peu compter les uns sur les autres, je retrouve un peu cette émulation-là et du coup forcément comme on est plusieurs, on regarde un peu ce que font les autres, on en jalouse certains. Et je pense que ça peut que faire grandir dans le métier de photographe, mais aussi humainement, quoi. Donc voilà. Pour moi, pour l'instant, de mes quelques mois de présence au sein du collectif, DR, c'est ça pour moi. Voilà. Après, j'ai pas encore eu la possibilité de mettre des choses sur PixPalace, parce que c'est des choses qui sont en cours de production et puis mes archives, j'ai tout simplement pas pris le temps de les éditer correctement avec les bonnes IPTC, les bons mots-clés, etc.
Être rigolo.
Voilà. Donc voilà, pareil, ça, il faudrait une période un peu plus calme pour que j'aie le temps
Ouais, faire un nouveau confinement, quoi.
de voilà, ça serait pas mal. Pour que j'aie le temps de me consacrer à tout ça. Je crois que voilà, j'ai fait le tour là-dessus. Ouais.
Cool, super. Ouais, beaucoup de gens qui sont là pour une ou deux choses en fait. Sur les trois volets qu'on propose, sur l'accompagnement, sur la communauté et sur les supports de diffusion, PixPalace, Il y a des gens qui ont toujours pas mis une seule photo sur Pixpalace après 3 ans, certains, qui sont là pour les formations ou pour l'esprit, comme tu viens de dire, de communauté, ouais. D'équipe, de pouvoir compter les uns sur les autres ou juste échanger, parler quand ça va pas. Ou... Bon, on n'est pas une hotline, mais... mais parfois ça fait du bien quand même. Et ouais, c'est vachement bien. C'est vrai que c'est un métier qui est très solitaire, quoi, la photo. Et tu l'as dit, tu as dit le mot jalousé, mais c'est vrai que c'est pas la profession la plus solidaire, je trouve. C'est un peu triste.
Ouais, et c'est très agréable, et je te remercie pour ça, parce que tu fais montre d'une grande solidarité, justement, vis-à-vis, mais pas seulement de la communauté d'EDR, en fait, parce que via tes podcasts, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, une grande entraide dans le monde de la photo. Moi, je n'ai pas utilisé le verbe jalouser, j'avais dit on se compare.
On se compare.
Mais du coup, quand on se compare, on peut se jalouser, effectivement. C'est vrai qu'on a, on a plutôt tendance à regarder le travail des autres d'un mauvais œil ou voilà, avec « ah oui, mais il a de la chance » ou « c'est facile pour lui » ou voilà. Mais en fait... S'il a de la chance, peut-être qu'il l'a provoqué, sa chance. Si c'est facile pour lui, c'est peut-être parce que ça fait 15 ans qu'il fait ça et que maintenant, effectivement, pour lui, c'est devenu facile.
Tu connais la phrase, hein, ça prend des années d'avoir un succès du jour au lendemain.
Oui, bah c'est ça. Ouais. C'est Picasso avec son dessin qui fait en 10 secondes, mais ça lui a pris toute sa vie. Quoi.
C'est ça. Mm. Je crois que la phrase a été de Jeff Bezos, il me semble. Dans une interview, quelqu'un lui disait « Alors, le succès du jour au lendemain ?» Il fait « Oui, bah oui. » À l'époque, on avait des... Nos bureaux, c'était portes, parce qu'on réduisait tous les coûts.
Ouais.
Tout le monde se foutait de notre gueule. Quand on a lancé Amazon, on était dans un KGB. Et en fait, oui, c'est devenu multinational, mais entre les deux, il y a eu pas mal d'évolution, quoi.
Mais moi, j'ai vu ça aussi dans l'évolution de la boîte de mon boulot précédent, où quand je suis arrivé dans la boîte, on était 300 ou 400. Et quand j'en suis parti, il y avait 6000 salariés, quoi. Tu commences, t'es quasiment, c'est encore quasiment l'esprit start-up, quoi. Et 10 ans plus tard, c'est une multinationale. C'est impressionnant, quoi.
Ah, c'est clair. Du coup, t'es en train de revenir un petit peu à tes premières amours, en quelque sorte, avec la presse, en revenant aussi sur Pixpalace. J'ai vu aussi que tu diffusais via Réa.
Ouais. Avec Réa, je travaille essentiellement en commande.
Ouais.
Il m'envoie faire du portrait de presse ou du reportage institutionnel, voilà. Excuse-moi, du coup, j'ai oublié ta question.
Ouais, non, c'était en gros, c'était juste pour te lancer dessus, donc n'hésite pas à nous dire comment ça se passe avec Réa et qu'est-ce que tu...
Bah, ça se passe très bien, moi, comme je te disais, je travaille essentiellement en commande. Que en commande, en fait, ce qui est un peu étonnant aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, que c'est pas.
C'est plus la norme.
Ouais, c'est ce que je voulais dire par là.
Mais ce qui est marrant, c'est que c'est la norme pour certains photographes. Ça, les gens qui travaillent en commande, donc, globalement, font que ça.
Ouais.
Mais la grande majorité des photographes, j'ai l'impression, à force de parler avec des gens, j'ai l'impression que des gens ne travaillent pas en commande parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire, ou ils ne cherchent pas non plus, ou ils n'ont pas. Moi, par exemple, j'ai pas forcément envie de travailler en commande, c'est pas un truc que je recherche volontairement. Et puis le marché fait que c'est compliqué aussi. Donc, ouais.
Voilà, ça se fait comme ça en ce moment, ça sera peut-être pas le cas parce que les clients réguliers que j'ai ici, demain, quelqu'un d'autre peut prendre ma place parce qu'il est meilleur, parce qu'il est moins cher, parce que. Ma tête revient plus au client du jour au lendemain, ça peut arriver et je suis tout à fait OK avec ça. Et à ce moment-là, peut-être que ça sera le moment de produire un petit peu plus personnellement et de proposer mes synopses et d'aller démarcher la presse à droite à gauche. Mais oui, pour revenir un petit peu à ce que tu dis, oui, je reviens à mes premières amours parce que j'ai toujours aimé la presse. Je trouve que le métier de journaliste est un métier formidable. Il permet d'aller dans des endroits auxquels on n'aurait pas accès autrement. Moi, je me sens privilégié d'avoir la possibilité de rencontrer des personnes qu'on pourrait pas rencontrer autrement et du coup d'apprendre plein de trucs tous les jours quoi. Et c'est je vois pas comment je pourrais me lasser de ça un jour quoi. Et du coup ça me fait vraiment du bien de me dire je retourne même si le milieu est un peu compliqué financièrement parlant, etc. Comme je sais que ça ne va pas être ma source de revenus principale, c'est un vrai plaisir de remettre le droit dans cet engrenage-là. Et ouais, voilà.
Ouais, c'est clair. Non, mais t'as raison, il y a la question de l'argent. Et c'est bien que t'en aies parlé, c'est rare d'entendre des photographes parler d'argent de façon décomplexée. Le simple fait de dire « je veux gagner de l'argent », surtout en France, t'as l'impression d'être catalogué direct d'un côté de... parfois d'un bord politique, ou en tout cas d'une idéologie. Ça rentrait dedans, mais le photojournalisme, on fait pas ça pour l'argent, parce que de toute façon, c'est pas viable. En tout cas, c'est très compliqué d'être dans les happy few qui arrivent à vraiment vivre. C'est possible, mais ça, c'est réservé à très peu de gens. Mais pour les raisons que tu as dit, en fait, c'est que tant que le client il a envie de te faire bosser, tant que tu es bon. Et en fait, je pense qu'il y a une corrélation aussi à faire entre le fait que, comme je disais tout à l'heure, il y a peu de gens qui vivent des commandes, mais qui pour eux c'est la norme, et très peu de gens qui arrivent à en vivre et qui en font jamais. Et je pense que si on devait tirer une leçon de ça, c'est tout connement le marché qui veut ça. Et c'est pas si simple que ça pour un client de trouver un photographe qui est fiable, efficace, sympa, qui travaille bien, qui sait gérer aussi son temps, son agenda, qui n'arrive pas à la bourre sur un shooting ou qui n'oublie pas. J'ai vu des gens qui oubliaient de se pointer sur un shoot, tu vois, ça arrive. Et tu vois, toi, ça te choquerait, moi aussi, Il y a des gens, ils n'arrivent pas, je sais pas, ils ne sont pas forcément polis, ils sont pas... Tu vois, quand on parle avec des iconographes, parfois, on a ces retours-là. Ils travaillent une fois avec un mec ou une nana, et puis ils arrêtent parce qu'en fait, les gens ne sont pas à l'heure, ils ne sont pas polis, c'est un truc basique, en fait, tu vois.
Ouais, mais c'est... Enfin, si j'ai de quoi me nourrir dans mon frigo, c'est aussi grâce à eux, donc ouais. C'est la moindre des choses de leur dire bonjour, merci. Ouais.
Merci, c'est clair. Ouais. Et t'as raison, mais il y a tellement de gens. Moi, par exemple, quand je suis publié par une rédaction, je dis toujours merci. Parce que pour moi, ça me semble normal. Et puis, parfois, j'offre un cadeau. J'envoie une carte de vœux à Noël. J'envoie un livre DR en cadeau, par exemple. Et les gens, ils sont choqués à chaque fois. Ils me disent, mais t'as, c'est sympa. Je dis, ben non, en fait, on en parlait avec J.C. Millet dans un podcast. Il disait pareil, mais tu me donnes à manger, en fait. Donc, c'est à moi de te dire merci.
Oui, c'est vrai. Oui.
Mais t'as beaucoup de gens, malheureusement, pour qui c'est normal. Tu vois, presque un peu comme, tu sais, quand t'es gamin et que c'est normal que tes parents fassent ton linge, fassent ton truc. Et il y en a, ils se considéraient vraiment comme ça, tu vois. J'en ai connu des gens comme ça. C'est un peu dommage.
C'est dommage, c'est ça.
Et du coup, je pense que du coup, ça favorise les gens qui sont en commande parce que du coup, ben, ils ont moins de concurrence, mathématiquement parlant, tu vois. Surtout si en plus, ils sont comme toi dans une logique, ils se disent « j'apprends tous les jours ». Je me forme à droite à gauche, tiens, il y a une nouvelle technique avec un nouveau boîtier, ben, je vais investir dans ce nouveau boîtier ou je vais me faire un workshop avec tel mec parce qu'il fait des trucs bien. Je veux prendre cette compétence, me l'accaparer pour la vendre ensuite à des clients. Ce qui est le jeu, hein. Tout le monde fait ça et c'est OK. Et en fait, ça fait améliorer la production de tout le monde. Et du coup, il y a plein de gens qui se disent, mais comment on fait ? Ben, c'est simple, en fait, tu bosses. Et tu te remets en question, tu essaies de...
Ouais, et puis il faut être curieux, et puis il ne faut pas avoir peur, quoi, tout simplement, parce que il y a des sujets, on m'envoie sur des commandes qui ne sont pas du tout dans ma zone de confort, mais j'y vais pas à reculons, parce que je sais que je vais apprendre quelque chose, quoi. Et puis même si le shooting ne va pas être agréable, parce que c'est pas mon domaine, c'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça ou quoi, mais en fait, tant pis, et puis j'aurais appris quelque chose, quoi qu'il arrive, et ça se trouve, j'aurais même rencontré quelqu'un de sympa. Donc,
c'est clair. Bah, avant de venir chez toi, hier, j'étais à Bordeaux avec la team bordelaise du collectif DR, et on discutait au resto avec un des photographes qui me disait « j'aimerais bien me lancer dans le mariage, mais ça me fait flipper, en fait ». Et on parlait de ça, et tu vois, on a discuté, et ça faisait un peu thérapie, quoi, parce que tu sais, tu poses des questions « pourquoi ça te fait flipper, pourquoi ?» Et en fait, il avait peur de se rater. Tu vois, il avait peur de rendre des photos mauvaises alors que c'est le jour le plus important de son client, tu vois. Et je dis, mais non, faut pas que t'aies peur, en fait. Faut que tu dises que c'est pas si compliqué que ça de faire des photos de mariage. En tout cas, rater le moment, enfin, je veux dire, si tu es concentré, que tu es entraîné, que tu es formé.
Et puis je pense même que je pense même qu'on peut demander à rejouer le moment.
De toute façon, la plupart ils bossent comme ça, hein. Faut pas se leurrer. Moi j'ai suivi des photographes de mariage. Ouais. Je sais pas si t'as vu sur YouTube, il y a une vidéo avec Thibaut Chap.
Je l'ai pas vu.
Tu verras, elle est simple. Parce que Thibaut Chap,
c'est. Était là, mais je l'ai pas vu.
Voilà, s'il nous écoute, hein, on lui fait un bisou. Thibaut, il est toujours très drôle et très bon surtout. Et quand il bosse en mariage, c'est un peu comme un photographe en manif. Il a ses deux boîtiers là, il court ouais. partout. Et il y a des moments, comme tous les photographes de mariage, c'est lui qui donne limite le rythme au mariage par moment. C'est-à-dire que c'est lui qui va dire « Ok, là, vous vous embrassez ». Moi, j'ai déjà vu des mariages où c'est pas le prêtre qui dit au marié « C'est vous qui vous embrassez ». Le prêtre, il attend que le photographe lui dise quoi faire, tu vois, pour pas rater la photo. Et du coup, effectivement, alors après, il y en a qui diront oh, « C'est scandaleux, faut faire ça sur le moment, tu sais, sur le vif, pas être là ». Oui, ok, globalement, dans la vraie vie, ce que les gens font, c'est qu'ils organisent, ils time, ils savent. Le photographe, il sait tout ce qui va se passer dans la journée. Il est là plusieurs jours avant pour avoir les infos. Enfin, il a eu les infos avant. Il n'y a pas de surprise, quoi. Et tant mieux, parce que le mec, tu le payes. Il faut qu'il ait les informations. Et à la fin, tu as un bon produit parce que tu as donné les informations.
Bien sûr.
Et tu vois, on parlait des tarifs. Ça peut être intéressant d'en parler aussi. Je lui disais, au pire, tu te fais. Si tu as du mal avec le fait d'être. Trop payé peut-être parce que tu peux avoir cette peur. Moi je l'ai ressenti mon premier mariage, je me suis dit putain les mecs ils me donnent quand même beaucoup d'argent, j'ai pas intérêt à me rater. Et tu pourrais très bien te dire ben je vais accepter une somme moins importante, tu vois, sans aller jusqu'au gratuit, mais un truc hein, qui le prix que tu considères juste par rapport aux compétences que tu as. Tu vois, c'est comme quand tu vas dans n'importe quelle boîte, tu vas pas te pointer chez Mercedes pour vendre des bagnoles et tu dis je veux 10 000 euros par mois pour vendre des voitures alors que tu n'as jamais vendu de voiture.
Bien
sûr. Tu vois, d'abord, tu vas commencer par un stage, peut-être une période d'essai. En fait, pourquoi pas faire ça en mariage? Et comme ça, tu as beaucoup moins de pression de ton côté, ouais. Tu te fais plaisir, tu vas produire un truc qui vaudra plus que ce que tu as demandé et après, tu vas augmenter tes tarifs avec le temps. Comment toi, tu as appris à gérer tes tarifs? Encore une fois, tu as commencé... basculer du salariat à faire des
ouais,
mois parfois à 6 000 euros, c'est...
Il y a des freelances qui venaient bosser dans mon ancienne boîte, parce qu'on était une petite équipe avec quelques photographes salariés, mais il y a des moments où la prod exigeait qu'il y ait des freelances, et des fois il y en avait beaucoup qui venaient. Et du coup, ils étaient payés 500 balles la journée. Du coup, moi, j'ai pris ça comme base.
Ouais, d'après un référentiel.
Voilà, marché. J'ai pris ça comme base. Et puis, par-dessus, je facture ma post-production, que je facture moins cher que la production en elle-même, tout simplement parce que, tu vois, je suis ici, à côté de mon radiateur, j'ai mon chat sur les genoux si je veux, je peux travailler en pantoufles. Donc je facture ma post-prod et puis après je facture ma session de droit en fonction des utilisations que le client veut faire des images quoi.
Ouais.
Voilà. Ça c'est pas toujours bien compris parce que certains clients sont pas du tout au courant qu'il y a ça qui existe et qu'il faut le payer.
Ouais.
Donc après c'est des dialogues et voilà, faut s'adapter quoi.
Ah, les sessions de droit on en a parlé pas mal dans le podcast. T'as peut-être écouté celui avec Mathieu Baudot, le président de l'UPP.
Ouais,
qui en parle
il y a longtemps.
Ça. Celle-là, elle est assez récente. On a fait il n'y a pas très longtemps, Mathieu. Mais après, on avait déjà parlé de l'UPP.
Je confonds peut-être avec celui, avec la CEF.
Oui, avec la CEF, ouais, effectivement. Ouais. Ça, c'était il y a plus de temps. Ouais.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est une question importante. Après, on a toujours des désaccords sur la question du discours commercial, je pense qu'il y a derrière, tu vois, il y a une façon de faire. Ça aussi, c'est un peu comme, tu sais, je disais, il y a des photographes parfois qui prennent pour acquis qu'une rédaction réponde à leurs mails, achète leurs photos, publie leurs images. Il y en a qui prennent pour acquis le fait que les clients corporate payent les droits d'auteur ou repayent les droits d'auteur tous les 2-3 ans, ce qui, d'après la loi, est censé être fait, mais... Vu que les gens ne connaissent pas, ne savent pas, qu'en plus ils peuvent faire appel à des gens qui ne font pas ça, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils n'ont pas envie.
Ouais.
Tu vois, ça vient un peu affronter aussi des camps, je trouve. Ça crée des camps, le photographe. Je ne sais pas si tu le vois des fois sur les réseaux sociaux, quand tu vois quelques commentaires qui s'accumulent, où il y en a un qui dit qu'il va bosser pour tel tarif, il y en a un autre qui va dire ah, t'es pas assez cher, t'es en train de tuer le marché, machin. Et tu sais, c'est un peu la petite guéguerre de.
Ouais, mais enfin. Moi, je préfère travailler, être un peu moins cher et avoir des commandes, avoir du boulot, et faire du volume, plutôt que dire « Ah non, mais moi, je sors pas de chez moi à moins de 2000 la journée. » Et puis, effectivement, je sors pas de chez moi, quoi. Donc, et puis, il y a aussi une logique de territoire. Forcément, qu'en province, moi ici en Vendée, les tarifs pratiqués ne sont pas les mêmes que ceux à Paris ou à Lyon ou peut-être à Toulouse dans ton cas. Et du coup, faut s'adapter au marché tel qu'il est et puis en prendre son parti et faire avec, quoi. Moi, je me sens pas en capacité d'aller dire à aux clients qui me font travailler à partir de maintenant, c'est 1000 euros la journée. Parce que ils vont me dire on va prendre quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça.
C'est clair. Et d'autant plus qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a aussi une grosse méconnaissance de la part des photographes. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des cours, des formations et tout, ou des podcasts, où on parle de comment tu fais pour bien démarcher, pour comment tu te places dans les pompes de quelqu'un qui amène de la valeur, tu vois. Parce qu'au final, on est commerçant. Des fois, on oublie un peu. Tu vois, c'est un peu comme un photographe de mariage, il bosse pour la mariée. Il propose un service. Ouais. Il n'est pas là pour se faire plaisir. Des fois, quand tu entends certains discours, ou quand tu vois que les gens veulent se faire plaisir avant de proposer un service. Mais alors que tu es là pour vendre, proposer de la valeur et fournir quelque chose qui va en plus servir pour ton client à gagner de l'argent. Donc si tu ne fais pas ce transfert en te disant à quoi va servir ce que je fais, comment je peux l'améliorer pour que ça soit vraiment profitable, pour que lui ait un retour sur investissement et pas que moi. Tu vois, il y a ce côté un peu... il faut vraiment être altruiste quelque part. Il faut se forcer à être... se placer à la place des gens. Tu vois, pour la presse, c'est un gros problème, je trouve, parce que autant les artisans, ils commencent à le comprendre, enfin, ils le savent, c'est des artisans, ils savent qu'ils produisent un service et un tarif, l'offre et la demande. Dans le photojournalisme, tu me vois des fois le lundi le reprocher à certains membres de DR, dire à qui tu vas le vendre ton sujet, ouais. Pourquoi le journal va l'acheter ton sujet, pourquoi cette histoire, oui, tu la racontes bien, elle est intéressante, toi ça t'intéresse, mais pourquoi ça va intéresser les lecteurs du journal, ouais. Tu vois, et on se dit, mais ça va être intéressant parce que moi ça m'intéresse.
Mais c'est c'est très très juste ça. C'est se mettre à la place des gens, c'est comme dire bonjour et merci à la fin, quoi. Parce que on est des prestataires de services. Moi, quand je fais un devis, dans mon devis, sur la partie production, il y a marqué la prestation inclus, 2 points. Tac, 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 tac. Prestation. Donc, on n'est pas là pour se faire kiffer, même si on peut prendre beaucoup de plaisir à faire ce métier, et j'espère que tous les photographes prennent du plaisir à faire des photos, mais on reste des prestataires de services, donc c'est comme un mec qui fait une pizza, il ne l'a fait pas pour lui, hein, il l'a fait pour son client. Bah, nous, c'est pareil, quoi.
En plus, tu prendras d'autant plus de plaisir que si la personne en face a pris du plaisir à acheter ce truc-là. Ouais. C'est un peu comme... mais il y a un bon conseil que j'ai appris avec le temps, c'est de regarder un peu ce que font les enseignes de luxe. Tu vois, comment j'aime bien de t'entendre rentrer dans une bijouterie, regarder un truc, regarder une montre, regarder un bijou et voir comment les gens ils bossent, en fait. Et c'est vachement intéressant, l'industrie du luxe, parce que on devrait tous en inspirer. Parce que nous, quand tu vends une journée de travail à même 500 euros, 1000 euros ou 2000 euros parfois, quelque part, tu vends du luxe. À l'heure où on pourrait récupérer des photos, les créer via de l'IA et tout, qu'une boîte décide de dépenser autant d'argent pour un prestataire, c'est du luxe. Alors oui, il peut y avoir un retour sur investissement, mais souvent, il y a quand même ce côté, on fait travailler un artisan. L'artisanat, c'est en train de devenir du luxe presque. Mmh, tu vois, pourquoi payer 2000 balles une chaise plutôt que l'acheter 20 euros sur Wish, tu vois, elle arrive de Chine. Et du coup, on ne vend pas une montre à 10 000, 20 000 euros comme on vend une montre à 50 euros. Ouais. Le vendeur, il n'est pas sapé pareil. Il ne va pas parler de la même façon. Il ne va pas te regarder de la même façon. Il va pas... Et du coup, ça, c'est un truc qu'on devrait s'en inspirer un peu plus, tu vois, je trouve.
Oui, c'est assez juste. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mmh. J'ai rien à rajouter parce que c'est.
T'as dit tout ça. Ah, c'est cool, c'est bien de cette discussion, ça permet de réfléchir à des choses. D'ailleurs, en parlant d'artisanat, alors, autour de nous, il y a des machines qu'on n'a plus trop l'habitude de voir qui permettent de faire de l'argentique.
Ah ouais. Ouais.
C'est, t'en fais depuis longtemps ?
Ouais, alors, c'est. Je crois que c'est. Quand j'étais vraiment tout petit, mon papa faisait du labo noir et blanc. Et du coup, on a des caisses entières à la maison de photos de famille tirées par mon père. Et du coup, je crois que ça m'a toujours plu depuis gamin, ce côté-là tactile du tirage. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon école de photo, il y a une grosse partie de la formation qui était en argentique. Et de mettre les doigts dans la soupe, là, moi, ça m'a... Ouais, ça m'a transporté quoi. Et du coup bah, je fais toujours de l'argentique aujourd'hui, un petit peu moins ces derniers temps parce que c'est un sport de riche, les papiers, les films ont pris une inflation gigantesque et du coup j'en fais encore un peu mais avec parcimonie, mais oui là à côté de moi il y a l'agrandisseur et c'est un. Voilà, je tire en noir et blanc, je développe mes films et je tire en noir et blanc encore aujourd'hui. Ouais.
Trop cool.
Ouais.
Qu'est-ce que ça te... À quel point ça t'aide dans ton métier de photographe de presse ou corporate ou portraitiste ensuite avec du numérique ? Est-ce que tu conseillerais absolument à un jeune qui n'a pas connu cette époque de forcément passer aussi par là ou pas forcément ?
C'est deux choses. Alors oui, ça apprend un peu la patience déjà, et surtout comme on n'est pas avec une carte mémoire de 64 ou 128 gigas, on est avec, dans le meilleur des cas, un film de 36 poses, ou si on travaille à la chambre, on a un plan film ou en moyen format 10 ou 12 vues sur la pellicule. Ben forcément, on réfléchit un petit peu plus. On soigne un peu son cadrage, on ne fait pas une rafale parce qu'on fait un déclenchement et Inch'Allah, la photo sera bonne. En numérique, effectivement, c'est beaucoup plus, on a beaucoup plus le droit à l'erreur. On peut faire une rafale de 50 photos, en choisir une au milieu et voilà, ça en argentique, on ne peut pas. Donc ça apporte un regard un peu différent, c'est une autre temporalité aussi. C'est une autre temporalité dans l'approche de la photographie. Encore plus si on fait soi-même son tirage au bout du compte. Parce que entre le moment où la photo est prise et le moment où elle est fixée, puis rincée à la fin du processus chimique, il peut se passer beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, ce temps-là, il est aussi utile, je pense, pour des questions d'editing. Parce que si on ne fait pas une bobine complète, qu'on ne la développe pas tout de suite et qu'on ne la tire pas tout de suite, bon, alors déjà on ne tire pas toutes les photos de la bobine, on va en tirer que deux ou trois en fonction de ce qu'on va choisir sur la planche contact, mais comme on laisse passer du temps entre le moment où on a pris la photo et le moment où on va la tirer, où on va choisir celle qu'on va tirer, on perd un petit peu le côté émotionnel du moment de la prise de vue, qui fait qu'on est un peu détaché par rapport, un peu plus facilement détaché par rapport aux photos qui ont été prises, et du coup il y a moins ce côté cette photo-là, je vais la tirer parce que elle m'a coûté de la faire. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais
moi je comprends parce que tu sais c'est le cas qu'on a un peu tous les lundis en visio avec les membres de DR ou quand vous présentez vos sujets souvent je vous dis mais je dis à la personne pourquoi t'as gardé cette photo, elle apporte pas grand chose dans l'histoire, et la personne va dire ouais mais à ce moment là c'est important, mais en fait c'est surtout parce qu'à ce moment là c'est important pour le photographe, il a galéré à faire la photo, tu l'as dit, ou la personne était sympa, ou il aime bien la lumière, un truc comme ça. Sauf qu'effectivement, l'editing, ça doit être le truc le plus froid de l'histoire, quoi. Tu dois pouvoir être capable de tuer tes photos. Enfin, tu les tues pas, mais bon, de les supprimer de ton editing, de les virer. Tiens, il y a longtemps, j'avais fait l'exercice avec un autre photographe qui s'appelle Alex. On avait fait, je me rappelle, un editing. J'avais vendu un truc au Figaro Magazine et il m'avait aidé à faire l'editing. Il fallait sélectionner 20 photos. On était parti de 60, je crois. Il les avait imprimées sur des petits tirages de lecture. On les a mis sur des tables. Donc, je ne sais pas le bordel pour. Et en fait, on tournait autour et tous les deux, on réfléchissait un peu à ce qu'on enlevait. Et à chaque fois qu'on enlevait une photo, on l'a déchirée, on l'a froissée, tu vois. Et ça fait bizarre en fait, ouais. Parce que à la fin,
c'est violent. Hein.
Et c'est violent. Et tu peux pas revenir en arrière, tu vas pas dire ah putain en fait t'es bien, tu l'as, tu vois. Et à la fin, t'as tes 20 photos, mais tu te dis tiens ça coûte. Mais en même temps, quand tu te fais aider en plus, t'as le regard extérieur de quelqu'un qui était pas là, qui a pas vécu le truc, qui va te dire ouais alors peut-être que c'est bien pour toi, mais bof c'est pas terrible quoi. Et effectivement, l'argentique, t'as raison, de fait d'allonger la temporalité. Je pense aussi le fait que tu les regardes plus souvent les photos peut-être.
Mais
parce que sur le numérique, sur l'ordi, on les regarde très vite.
Les photos.
Ouais, c'est important d'avoir des tirages physiques, ne serait-ce que pour le jour où tu as un gamin, lui montrer à quoi il ressemblait maman. parce que sinon, bah, c'est sur un disque dur au fond d'un placard.
Décorer un mur, tout connement, mais en fait, le fait de revoir tes photos, moi j'en ai tiré chez moi, ça fait un peu présomptueux, mais en fait, j'ai vu d'autres gens le faire et je me dis, ouais, c'est un peu con, mais en fait, non, quand tu regardes tes photos plusieurs fois, en plus dans des moments de ta vie où. Complètement random, tu vois, où tu fais pas trop attention, mais des fois tu refais attention à la photo et tu vois quelque chose et tu reapprends quelque chose sur ce moment, tu vois. C'était William Keogh qui en parlait dans un podcast, il disait que qui fait partie de Magnum maintenant, qui était chez DR avant, et qui disait moi, une fois par an, je peux la temporalité, je crois que c'était une fois par an, je refais un editing global de toutes mes images. Je regarde tout ce que j'ai fait dans l'année, voire même avant, et je me pose des questions de pourquoi je fais souvent ce cadrage-là, pourquoi je regarde. Il se rendait compte que dans le 9-3, il faisait beaucoup de photos de personnes noires. Il se rendait compte que c'était lié à son histoire dans le quartier. Et du coup, tu apprends des choses, tu refais vivre tes photos d'une autre façon. Et c'est
vachement bien.
Ouais. Mais moi, sur mes séries perso, il y a des choses que j'ai proposées en galerie il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, je proposerai pas du tout les mêmes editings, quoi. Parce que mon œil a évolué, parce qu'il y a cette histoire de temporalité où il s'est passé 3 ans, 4 ans, et du coup, je me suis encore plus détaché de mes souvenirs par rapport au sujet, de tout ça, et du coup, j'ai plus qu'une série d'images qui potentiellement pourraient même ne pas être les miennes, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ouais, je proposerai pas les mêmes editings aujourd'hui, quoi.
Carrément. Tu parlais de galerie, c'est une bonne transition. Tu exposes aussi en galerie des photos?
Alors, pas en ce moment, mais oui, j'ai la chance d'être représenté par deux galeries. Il y a la galerie Goutal à Aix-en-Provence, qui sont les premiers à être venus me chercher, et je les remercie et je les salue. Et puis, il y a la galerie Nag à Paris, avec qui, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule exposition, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Et du coup, c'est des séries personnelles. En fait, à l'époque où j'étais salarié, donc où je travaillais 5 jours sur 7 en studio, des studios qui, pour certains, n'avaient pas de fenêtres, etc. On travaillait avec des cadences de prise de vue extrêmement élevées, avec des objectifs, des rendements, etc., qui était assez important, et du coup moi j'avais besoin de m'échapper un petit peu et de laisser s'échapper ma pratique de la photographie des 4 murs du studio, et du coup je partais beaucoup en voyage. Je suis parti notamment 5 fois en Écosse pour faire une série de photos sur l'errance, voilà, ça reste de la photo de paysage, mais c'est pas du paysage comme on l'entend, comme on pourrait en trouver dans Géo ou ce genre de choses, quoi. C'était vraiment un travail très personnel. Et puis j'ai fait une autre série dans le désert de Tabernas en Espagne. Donc ça, c'est une série qui s'appelle Clint Eastwood et qui est sur les lieux de tournage des Western Spaghetti de Sergio Leone notamment. Et en fait, cette série-là en Espagne, je l'avais proposée au festival Photomed, donc qui se trouve à Sanary-sur-Mer, à côté de Toulon. Et du coup, c'est un festival de photos qui est qui est consacré à la photographie autour de la Méditerranée. Donc, comme le désert de Tavernas est au bord de la Méditerranée, pas très loin d'Almeria en Espagne, je rentrais dans la thématique, donc j'ai proposé mon sujet là-bas. Il a été exposé, et c'est comme ça que la galerie Goutal, qui eux aussi, enfin, c'est Olivia et Vincent Goutal, qui sont photographes avant d'être galeristes, exposés aussi à ce festival. Ils avaient pour projet de monter une galerie, et ils m'ont approché à ce moment-là en me demandant si je voulais faire partie de leur aventure naissante. Et j'ai accepté, et puis ben voilà, on est toujours. Je suis toujours avec eux, et ils font beaucoup d'expositions collectives dans leur galerie à Aix-en-Provence, donc mon travail est montré là-bas régulièrement, que ce soit mes travaux d'Espagne, mes travaux d'Écosse, ou d'autres choses à venir bientôt. Voilà.
Excellent.
Ouais,
c'est la photo qui est exposée dans ta cuisine, c'est ça, le cow-boy là, qui marche dans les rues.
Ouais, okay. Absolument, ouais.
Super.
Ouais, ouais.
Elle est vachement bien.
Merci.
Ouais, vachement bien. Et elle est sur Instagram ? Tu as publié ces photos sur Instagram ?
J'en ai publié quelques-unes, oui, mais je ne suis pas
un grand fan
d'Instagram. Parce que je pense que quand on est... Je suis tout à fait conscient du fait que les réseaux sociaux ont une place extrêmement importante aujourd'hui. Mais moi, j'ai du mal à y passer du temps. Ouais, je ne suis pas très présent sur les réseaux. Voilà, parce que c'est pas trop ma cam, quoi.
Ok. Ouais. Bah, je te conseille l'atelier sur l'automatisation qui parle de ça, pour gagner du temps. Et on renvoie quand même les gens sur ton compte Insta, parce qu'il y a des trucs super beaux.
Ouais, il y a des trucs. Bon, j'y mets quand même des choses de temps en temps. Je fais plus facilement des stories que des publications, parce que ça me. En fait, c'est plus simple, plus rapide, etc. Et mettre une photo sur Instagram, j'ai pas envie. Ça me prend un peu la tête de me dire, faut que je cherche quel hashtag mettre pour que ça fonctionne, etc. Va falloir que je le fasse quand même pour les mots clés dans les IPTC pour Pix Palace, mais c'est une autre démarche. Donc.
Ouais, mais tu pourras jumeler les deux, je pense. Tu peux mettre en place un process qui te permet à la fois de faire tes IPTC pour Pix Palace et en même temps sur Instagram. Comme ça, tu fais coup double.
Ouais.
Ça te prend moins de temps et tu prends de l'avance. Quand je te parlais d'automatisation, c'est un atelier que j'ai fait là il y a très peu de temps sur la question de comment tu fais pour. Planifier des posts, par exemple, sur le réseau via des outils, ou connecter des outils ensemble pour que quand tu postes sur Facebook, ça poste automatiquement sur Instagram, sur YouTube, etc. En fait, tu te rends compte qu'en quelques heures posées dans ta journée, tu peux planifier plusieurs mois de contenu d'avance.
D'accord.
Donc, une fois que c'est fait, la dernière fois, j'ai passé 5 heures d'affilée sur ce logiciel et j'ai planifié 4 mois de contenu sur Facebook et LinkedIn. Tu vois. Donc, tous mes posts que tu vois passer sur LinkedIn, là, il y en a 2 par jour,
ouais.
Ça a été fait il y a 3 semaines là, pendant une après-midi où je me suis dit ok, je vais faire ça comme un gros Google, mais au moins c'est fait et après j'ai plus besoin d'y penser jusqu'à janvier, tu vois.
Ah, c'est bien.
Et voilà.
Ah ouais, moi j'étais, tu vois, je suis là, ça me trouve le cul.
Parfait.
Parce que ouais, ça me pour le coup, ça me rend curieux là.
Je te montrerai le logiciel.
Ouais, je veux bien, ouais. Ouais, parce que ouais, les réseaux sociaux, moi je suis pas sur Facebook, j'ai jamais eu de Facebook. Ouais. J'ai jamais eu de Twitter ou ce genre de choses. Je me suis fait un compte Instagram et encore, c'était 10 ans après tout le monde, tu vois. Et je crois que c'était au départ, c'était plus pour voir les photos des copains que réellement mettre les miennes. C'est vrai que je poste très très peu. Mais j'avoue que c'est ça a quand même une certaine utilité. Ne serait-ce que les clients, faire une petite story quand on est chez un client et taguer le client dessus, bah, le client est content. Et c'est une petite valeur ajoutée pour le client aussi. Donc,
Puis aujourd'hui, tu es obligé d'être. Aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Hein. Peut-être aujourd'hui encore plus qu'avant, tu es obligé vraiment d'être présent. Que tu le veuilles ou pas, en fait, il faut que tu sois présent à la tête des gens et de tes clients notamment. Ne serait-ce que pour les fidéliser, etc. Pas disparaître parce que si en plus tu disparais, les gens se posent des questions, il y a des, tu vois, c'est la réputation et la réputation en ligne, si c'est pas toi qui t'en occupes, c'est les autres qui s'en occuperont pour toi.
Ouais.
Et il y a plein de gens qui se disent ouais, mais à quoi bon passer autant de temps sur les réseaux pour faire tes trucs, ça rapporte pas d'argent. Oui, ça rapporte pas d'argent de façon,
ouais, de façon directe,
ciblée, pas directe. Ouais. Mais en fait, indirectement, ça rapporte beaucoup plus que ce qu'on imagine. Tu vois, par exemple, le collectif DR, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le collectif DR parce qu'ils sont tombés sur des vidéos sur notre chaîne YouTube, qui est toute petite chaîne, elle n'a même pas 1000 abonnés.
Ouais.
Ou sur même les podcasts, tu vois, les podcasts n'ont pas des scores d'écoute monstrueux, mais c'est un travail qui rapporte sur le long terme, qui fait parler de toi, et c'est important. Et c'est pour ça que si la barrière, c'est de dire « ça me prend trop de temps » ou « j'ai pas les connaissances », en fait, tu as des formations qui t'expliquent comment faire et tu as des outils qui te permettent de gagner du temps. Et du coup, tu... comme les IPTC, c'est pareil. Les IPTC, tu as plein de petites méthodes, tu sais, les paramètres prédéfinis dans Lightroom, trucs comme ça, qui te permettent de passer de 5 heures à 1 heure. Tu
ouais.
vois. Et là, tu te rends compte qu'en fait, si tu passes que 1 heure, bah, en fait, c'est pas si chiant. Ça passe. Donc, ouais, c'est. Petit conseil.
Ouais, merci. Merci.
Mais c'est moi qui te remercie pour ce temps et ton accueil ici.
Ouais, avec plaisir.
Pour ton très bon chip au carnet de midi. Merci. C'était très cool. Et puis, je propose à nos auditeurs d'aller te découvrir sur Facebook et sur Instagram. Et merci d'avoir.
Alors, pas sur mon Facebook, hein, du coup.
Sur ton site internet.
Ouais. Parce que Facebook, ouais, j'en ai pas. Mais
tu vas peut-être créer juste après cet épisode.
Il y a peu de chance. Il y a peu de chance.
En tout cas, voilà, sur le site internet et sur le site internet du collectif DR.
Ouais. Et moi, j'ai deux sites internet, en fait.
Ouais.
Il y a pierreolier.com, qui est mon site d'artiste, où je, entre guillemets, où je montre mes séries personnelles, ce que je propose en galerie, par exemple. Et puis, il y a le site de mon entreprise, où là, je montre plus mes travaux corporate, de reportage, de studio, etc. Et là, c'est onshore-studio.com.
Nickel. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup.
Non, merci à toi. C'était un grand plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.